Merci Seigneur pour ta parole, pour la Bible. Merci pour le privilège de pouvoir écouter ta voix et que tu sois à l'œuvre dans nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de l'aide de ton esprit pour comprendre ce que tu veux dire à nous et que nos vies soient transformées à cause de ce message ce matin. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Mais comment est-ce que je peux savoir que Dieu veut me sauver? C'est un dimanche matin, après la réunion. Vous êtes en train de boire votre café, juste là-bas. Et vous entendez cette exclamation. Vous vous tournez et vous voyez deux femmes, Béatrice et Marie. Nous n'avons pas quelqu'un qui s'appelle Béatrice ou Marie ici. Non, c'est bon. Deux femmes, Béatrice et Marie, qui ont récemment commencé à fréquenter l'église. Mais il y a pas, apparemment, il y a un désaccord. Donc, vous écoutez leur conversation. Mais comment est-ce que je peux savoir que Dieu veut me sauver? Répète Béatrice, la première femme. Je comprends pas tes doutes, répond Marie, la deuxième femme. Moi, je sais que je suis sauvé. J'ai changé pas mal de choses dans ma vie pour Dieu. Je sais que je ne suis pas encore parfait et je sais que j'ai toujours besoin de la grâce de Dieu, bien sûr, mais il veut me pardonner parce qu'il voit le changement dans mon cœur. Il est content avec le changement dans ma vie. Il sait que je l'aime dans mon cœur et que j'essaie de faire de ce qui lui plaît. Mais Béatrice, la première femme, l'interrompt. Oui, mais j'ai presque jamais l'impression que Dieu est content avec moi. J'essaie de mettre Dieu au centre de ma vie, mais comment savoir si ça suffit pour que Dieu me donne sa grâce, pour que Dieu me pardonne? Marie dit, Dieu voit que ton cœur est changé. Ça suffit pour lui, ça lui plaît, il va te pardonner. Mais est-ce que je me suis réellement repenti? Béatrice est toujours troublée. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie que je refuse à changer. Marie se tourne vers vous et vous demande, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous allez répondre? Qui a raison, Béatrice ou Marie? Vous vous êtes déjà demandé, ma repentance est-elle authentique? Quel niveau de changement Dieu requiert-il afin qu'il puisse me sauver? Et si je ne lui plais pas dans ma vie chrétienne, est-ce qu'il va me rejeter? Et si vous luttez avec les doutes là-dessus, ou si vous êtes déjà confiant, nous cherchons tous l'assurance que notre repentance est sincère, authentique. Nous cherchons l'assurance de notre salut. Comment savoir que Dieu veut nous sauver? En fait, c'est le souci des Israélites dans notre passage ce matin. Nous sommes dans le petit livre d'Agée, le prophète Agée dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. C'est nouveau pour moi aussi. Mais c'est un message très pertinent pour nous, je trouve, ce matin. Nous sommes en Israël. C'est l'année 520 avant Jésus. Mais ce n'est pas le royaume glorieux de David ou de Salomon, ou même des mauvais rois. Il y a 88 ans, le jugement de Dieu est tombé sur le peuple d'Israël à cause de leur péché. Babylone a envahi le pays. Jérusalem a été brûlé. Le temple a été détruit et le peuple a été exilé. Ils ont passé 70 ans sous la malédiction de Dieu, en exil et en misère en Babylone. Mais il y a 18 ans, un petit reste du peuple a été libérés et sont revenus en Israël. Est-ce le moment pour un nouveau départ et la réalisation des bénédictions promises par Dieu? Malheureusement, non. Le peuple se trouve toujours sous la malédiction de Dieu et le moisson est catastrophique. C'est à ce moment-là que le prophète Agée apporte un message de Dieu. Donc je vais juste lire Agée 1. Ce n'est pas notre passage principal ce matin, mais pour vous aider avec le contexte, je vais lire Agé 1, verset 1 à 11. La seconde année du roi Darius, ça c'est le roi de, pas de Babylone, mais du Perse ou de la Perse. De Perse, merci. Le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zerubbabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile. C'est ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Pourquoi sont-ils sous la malédiction de Dieu? Parce qu'ils ont négligé la reconstruction du temple. Ils ont privilégié leur propre maison au lieu de la maison de Dieu. Ils sont revenus de l'exil, oui, mais leur cœur n'a pas encore changé. Dieu n'est toujours pas au centre de leur nation. Que fera donc le peuple? Va-t-il ignorer cet avertissement de Dieu comme il l'avait fait avant l'exil? En fait, non. Dans une scène très rare et remarquable, le peuple prend au sérieux l'avertissement d'Agé. Ils se sont repentis et ils ont commencé à reconstruire le temple à nouveau. Le peuple d'Israël a envie de remettre Dieu au centre de leur nation. Peut-être que leur cœur a enfin réellement changé et ils peuvent maintenant s'attendre à ce que la bénédiction promise arrive. Cet événement s'est passé en fin de mois d'août, l'année 520. Dans notre passage principal ce matin, nous rejoignons le peuple en mi-décembre, le 28 décembre. La reconstruction du temple a commencé. La nouvelle graine vient d'être semée pour l'année prochaine. La nation est tendue. Qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer une conversation entre deux prêtres, Phinéas et Tsadok, deux prêtres imaginaires, un peu comme celle de nos deux femmes au début. Phinéas dit, « Dieu va nous bénir cette année-ci. Nous avons commencé à reconstruire le temple, nous nous sommes repentis. Notre repentance doit lui plaire. » Mais Phinéas dit, Tsadok dit, « Comment savoir que nous prenons au sérieux le travail de Dieu? Si Dieu n'est pas content avec nos efforts, alors qu'en est-il pour notre moisson? » Et c'est dans ce contexte que le prophète Agé arrive avec un message de Dieu. Sa réponse va régler la question pour eux et pour nous aussi. Comment savoir si notre repentance suffit pour gagner le pardon et la bénédiction de Dieu? Écoutons le message d'Agé. Il va nous apprendre deux grandes choses. Voici le message que nous allons voir dans la première moitié du passage. Comprenez la règle du virus. Donc, ça, c'est le message dans la première partie. Comprenez la règle du virus. Est-ce que vous connaissez la mission? Question pour un champion? Oui, c'est bien connu. Alors, aujourd'hui, nous sommes des spectateurs pour une mission exceptionnelle. Question pour un prêtre. Notre présentateur, le prophète Agé lui-même, le sujet, la loi de Dieu. Donc, nous allons lire versets 10 et 11 du chapitre 2. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan... je vais m'arrêter là. Voilà, notre présentateur entre. Dieu lui a donné deux questions pour tester la connaissance des prêtres, des participants. Les mains des prêtres sont prêtes à appuyer sur les boutons. Première question, dit notre présentateur. Verset 12. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qui touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? C'est-à-dire, est-ce qu'une chose sacrée rendent une autre chose sacrée? Bip! Oui, équipe Phineas. Phineas dit, tu blagues, question pour un champion, c'est plutôt question pour un enfant. Lévitique 6, bien sûr, la réponse à cette question, c'est non. Très bien, équipe Phineas, un point. Leçon numéro 1. La pureté n'est pas contagieuse. Deuxième question, verset 13. Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? C'est-à-dire, est-ce qu'une chose impure rend une autre chose impure? Bip! Oui, équipe Tzadok. C'est quoi ce quiz? J'ai appris ça à l'école du dimanche, l'école du samedi. Pratiquement avant ma circoncision. Oui, bien sûr, elle sera impure. Équipe Tzadok. Un point. Très bien. Leçon numéro 2. L'impureté est contagieuse. Oh, ok. La pureté n'est pas contagieuse. L'impureté est contagieuse. Alors quoi? Ça, on connaît bien. Et Agé tourne vers eux. Et il dit, verset 14. Agé, reprenons la parodie. Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qui m'offre là est souillé. Ce n'est plus un jeu. Comprenez ce que j'appelle la règle du virus. C'est-à-dire une infection est contagieuse. Mais la bonne santé ne l'est pas. La viande sacrée, dans cette première question, c'est comme le nouveau temple, le lieu saint de Dieu. Le peuple semble espérer qu'en travaillant sur le temple, ils sont rendus purs. Mais ça marche pas comme ça. Parce que la pureté n'est pas contagieuse. En revanche, le peuple est impur et l'impureté est contagieuse. Regardez encore une fois verset 14. Le peuple rend impur le travail de leurs mains, de ses mains. C'est-à-dire, la moisson reste maudite à cause de leur impureté. Et pire encore, au lieu de devenir pur grâce au nouveau temple, le peuple rend impur les offrandes qu'ils y présentent. C'est la règle du virus et c'est très, très grave. Nous pouvons imaginer la réponse de nos deux prêtres à ce stade. Non, ce n'est pas possible. On s'est repenti. Nous nous sommes consacrés au Saint-Travail Saint, comme il nous a demandé. Qu'est-ce qu'il faut faire au-delà de ça? Notre repentance ne suffira-t-elle jamais pour qu'il nous pardonne et pour qu'il nous bénisse? Ils ont compris la règle du virus. Oui, leur repentance en ce qui concerne le temple, et c'était authentique, oui, c'était même nécessaire pour recevoir la bénédiction. Mais, ils ont tort s'ils pensent que leur repentance peut rendre pur un peuple impur, car le péché, c'est un virus. Nous savons que pendant les 12 derniers mois, l'Afrique de l'Ouest a connu la plus grande épidémie du virus Ebola qui s'est jamais produite. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un qui est propre touche quelqu'un qui est infecté par l'Ebola? La personne saine ne rend pas pure la personne infectée. En fait, la personne infectée infecte la personne saine. Et le péché est comme ça. Il est sorti du cœur d'Adam et s'est transmis à chacun de ses descendants. Et maintenant, le péché, nous transmettons le virus à chaque partie de nos vies. Il n'existe aucune pensée, aucune émotion, aucune action qui n'est pas infectée par le péché. Et voici le vrai choc du passage. La repentance est nécessaire pour être sauvé. Oui, bien sûr, mais même si ma repentance est authentique, je la rends impure. Même si je fais des bonnes choses pour le Seigneur dans ma vie chrétienne, je rends le travail de mes mains impur. Donc, ni Béatrice, ni Marie n'a raison. Dieu ne dit jamais, le changement dans ton cœur, ça me plaît. Maintenant, je veux te pardonner. Parce que même votre changement est complètement impur aux yeux de Dieu. Je ne parle pas à des chrétiens, à des non-chrétiens, qui pensent qu'ils sont sauvés par leurs œuvres. C'est pas ça, pas du tout. Je parle à ceux qui savent que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et qui se sont vraiment repentis, mais qui cherchent à baser leur assurance sur leur repentance, sur le changement dans leur vie. Cette attitude est parfois très subtile, chez moi aussi. Par exemple, si vous êtes un peu comme Marie, vous êtes convaincu peut-être, par exemple, que vous ne prenez pas au sérieux votre culte personnel, et vous vous mettez à prier. C'est une vraie repentance, oui, c'est important, c'est critique, mais vous pensez inconsciemment que Dieu vous accepte à nouveau, il vous pardonne, parce que le changement lui a plu. Vous voyez combien c'est subtil? Ou vous êtes peut-être un peu comme Béatrice. Malgré le fait que vous faites pas mal de choses pour l'Église, vous vous inquiétez que Dieu n'est pas vraiment impressionné par votre repentance, par vos minuscules efforts, ni par votre manque de repentance, peut-être bon, dans autres domaines de la vie. Est-ce que vous comprenez la règle du virus? Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons jamais l'inciter à nous pardonner. Parce que chaque partie de nos vies, même notre repentance, est infectée par le péché. Si votre réaction est donc, que faire? Dieu exige un cœur repentant. Mais maintenant, tu me dis que ma repentance ne l'incite pas à me sauver? Pas du tout. Je suis condamné à l'enfer. C'est sans doute la même réaction que Phinéas et Tzadok, nos deux prêtres imaginaires. Que faire? Si nous sommes toujours impurs, malgré notre repentance, malgré la reconstruction du nouveau temple, alors notre précieuse moisson est maudite. À âger maintenant, à leur apporter la deuxième partie du message. Prenez à cœur la bénédiction promise. Ça, c'est un résumé de la deuxième partie du message. Prenez à cœur la bénédiction promise. Que faut-il que le peuple d'Israël fasse maintenant? On s'attendrait à ce que Dieu demande une attitude plus sérieuse envers le péché. Mais ce n'est pas ce qui suit. En fait, le message d'Agé est inattendu et très simple. Prenez à cœur la bénédiction promise. Lisons ensemble versets 15 à 17. Agé continue. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on ait mis sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Le message de Dieu ici est très simple. Prenez à cœur votre passé. Vous souvenez-vous à quoi votre vie se ressemblait avant que vous vous êtes repenti, avant que vous avez commencé à reconstruire le nouveau temple. Votre moisson était catastrophique. Je vous ai maudit. Et vous avez refusé de revenir à moi. Mais ça, c'était la situation dans le passé. C'était la situation avant le début de la reconstruction du temple, avant votre repentance. Dieu continue, verset 18. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, ça c'est aujourd'hui, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore dans la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Je vais m'arrêter là, c'est avant la dernière phrase. Dieu le dit, prenez à cœur la promesse pour la moisson pour l'année prochaine. Oui, depuis la fondation du temple, il y a 3 mois, rien n'a changé en ce qui concerne votre moisson. Mais il attire leur attention à la date pour une raison. Le 24e jour du 9e mois, c'est le 18 décembre, c'est aujourd'hui. Ils viennent de semer la graine pour la prochaine moisson. Mais c'est décembre. Bien sûr, il n'y a pas encore une moisson. C'est pas possible en décembre. Mais Dieu ajoute une dernière remarque, verset 19. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. À partir de ce jour, je vais bénir. C'est-à-dire, prenez à cœur la promesse d'une moisson pour l'année prochaine. Vous serez bouche bée. Quoi? Quoi? Dieu vient de dire que le effort avec le temple ne sert à rien, que leur repentance ne sert à rien, et qu'ils sont toujours impurs. Et puis, je vais changer votre malédiction en bénédiction. Il vient d'établir une règle incontournable, et puis, c'est comme il ignore. Imaginons un juge qui prononce la sentence d'un cambrioleur. Il dit, vous méritez 10 ans en prison pour votre délit et le fait que vous avez promis de payer pour ce que vous avez volé, ça change rien. La loi, c'est la loi. Ça peut pas changer. Mais tant pis pour la loi. J'ai envie de vous pardonner. Vous êtes libre de partir. C'est ridicule. Ça marche pas comme ça. Mais c'est ce que Dieu dit ici. Je pense que, dans un sens, la surprise, c'est la clé. Quelle est la cause de la bénédiction de Dieu ici? Il n'y en a pas. Vraisemblablement, il n'y en a pas. Il dit, à partir de ce jour, je vais venir. Sans raison, apparemment. Tant pis pour la règle du virus. Si Dieu veut bénir, rien ne peut ni l'inciter, ni l'empêcher. Je vais répéter cette phrase. Si Dieu veut bénir, rien ne peut ni l'inciter, ni l'empêcher. Or, cette promesse ne s'est pas pleinement réalisée à cette époque. Le peuple jouissait peut-être de quelques années de moissons bénies, comme Dieu a promis. Mais dans le livre de Malachie, juste quelques années, un peu plus tard, on voit que malgré la repentance du peuple, malgré le nouveau temple, rien n'a changé. Le peuple est toujours impur et toujours sous la malédiction de Dieu. Au final, la règle du virus semble empêcher la bénédiction pour la nation impure. Où est donc cette bénédiction du verset 19? Dieu dit-il tant pis pour la règle du virus ou non? La réponse du Nouveau Testament est oui et non. Oui, si Dieu veut bénir, le péché de l'homme ne peut pas l'empêcher. Mais en même temps, Dieu ne peut pas ignorer le problème de notre péché. Non, il ne va pas ignorer le péché, la règle du virus. Il va le renverser. Il faut quelqu'un qui sache renverser la règle du virus. Donc, lisons ensemble un passage magnifique dans l'évangile de Luc, Luc 5, 12 à 14. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Voici quelqu'un qui s'est touché un lèpre et qui, au lieu d'être infecté, lui transmet la pureté. Voilà quelqu'un qui, à la croix, se laisse infecter par notre péché, qui se charge même de notre malédiction, qui est tué par notre virus. Mais au lieu de rester infecté, sa pureté tue le virus. Sa pureté nous est transmise, nous rendant purs. Un homme avec Ebola ne peut rien changer en lavant ses mains. Mais si c'était possible de greffer des microbes purs qui pourraient engloutir et remplacer les microbes infectés, c'est ce que Jésus a fait. Tant pis pour la règle du virus. Renversez la règle du virus. Quand Jésus nous touche, métaphoriquement, il tue notre péché et nous rend purs. Et par conséquence, Dieu répand toute bénédiction spirituelle sur nous. Qu'est-ce que vous devrez donc dire à Béatrice et à Marie? La repentance est nécessaire pour le salut, oui, comme les Israélites avec le temple. On ne peut pas être pardonné si on n'est pas prêt à revenir à Dieu et si on veut essayer de vivre une vie centrée sur Dieu. Oui, absolument. Mais notre repentance ne plaît pas à Dieu. Elle est toujours infectée. Non, prenez à cœur la bénédiction promise par Dieu. Dieu veut vous pardonner grâce uniquement à la mort de Jésus, à la pureté de Jésus, transmise gratuitement pour vous rendre pur et acceptable. Qu'est-ce que vous allez donc faire la prochaine fois que vous êtes convaincu de votre égoïsme, de votre impatience avec votre époux, épouse, ou de votre manque de prière, ou de votre manque de zèle pour l'évangélisation, ou de votre manque d'amour pour Dieu et pour son royaume? Il faut se repentir, oui. Prier pour un changement radical, oui. Mais attention à l'attitude qui dit, maintenant Dieu est content avec moi parce que je me suis repenti. Vous devriez vous dire, ma repentance n'est rien. Je ne prétends pas que ce petit effort plaît à Dieu. L'infection de mon péché rend mes meilleurs efforts impurs et offensifs. Comme âgé le commande, je prends à cœur la bénédiction promise, la bénédiction que Dieu promet. Ça semble impossible, étant donné l'impureté dans ma vie, mais je la prends quand même à cœur. Dieu l'a promis. Jésus tue le virus. Il a tué le virus, si vous êtes chrétien. Jésus m'a rendu pur. Seigneur, aide-moi à faire ce que je peux pour changer mon comportement aujourd'hui, oui, mais que je le fasse sous ta grâce, sachant que mes efforts ne valent rien sans la purification apportée par Jésus. C'est la clé de l'assurance dans notre lutte avec notre péché. Il faut juste dire que cette mentalité n'est pas facile à saisir. Il nous faut constamment nous prêcher cette vérité. Chaque fois que vous vous repentez de quelque chose, prenez à cœur la bénédiction promise par Dieu à travers la croix, le pardon et la paix avec Dieu, grâce uniquement à l'amour de Christ. En fait, dans ce passage, nous avons vu que la moisson de l'année prochaine est toujours invisible. La graine est toujours dans la terre, mais elle était quand même là, sur le point de surgir. Et parfois, ce pardon et cette paix avec Dieu semblent invisibles, surtout lorsque notre péché nous fait douter de notre assurance. Mais la bénédiction est là, même si ça semble parfois invisible. C'est peut-être encore une graine dans la terre. Mais persistez, attendez, croyez. Plus nous voyons que notre assurance s'appuie sur Jésus seul, que nous sommes purs en lui seul, plus nous jouirons de la joie et de l'assurance de notre salut. Juste pour finir, en fait, moi et Fiona, ma femme, nous sommes un peu comme Béatrice et Marie. L'illustration était autobiographique. Fiona, elle est souvent, j'ai sa permission à dire ça, mais Fiona est souvent un peu comme Marie. Elle est tentée de s'appuyer sur sa repentance. Elle croit parfois que Dieu la pardonne parce qu'il voit le changement dans sa vie. Moi, je suis plutôt comme Béatrice. Je suis tenté de douter de mon salut parce que je vois tout le péché dans ma vie et j'ai peur que ma repentance n'est pas authentique, que Dieu ne veut pas me pardonner. Mais nous sommes tous les deux en train d'apprendre la règle du virus, que nous ne pouvons rien faire, ni pour l'inciter Dieu pour nous pardonner, ni pour l'en empêcher. Même notre minuscule repentance ne sert à rien. Et de petit à petit, nous commençons à prendre à cœur la bénédiction promise à travers la croix de Jésus. Moi, j'ai encore du travail à faire dans ce domaine pour saisir cette mentalité. Mais plus que je vois que Dieu m'accepte uniquement grâce à l'amour de Jésus qui me purifie, plus je jouis de la joie, de la libération, de la reconnaissance et de la zèle pour Dieu aussi. Ma repentance est essentielle, oui, mais ne me rend pas pure. Elle est si petite. Mon assurance doit venir de Jésus seul, qui sait renverser la règle du virus. À partir de ce jour, je vais bénir.